Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr. Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir sur Micro Rebelle pour notre émission hebdomadaire Micro Rebelle Hebdo. Une émission qui est diffusée tous les vendredis à partir de 18h jusqu'à 19h. Une heure d'émission, une heure d'actualité, une heure d'actualité sociale, politique, une heure d'alternative dans le bassin minier et au-delà. Alors, cette émission est rediffusée par des radios associatives membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, notamment Radio PFM 99.9, qui nous rediffuse le vendredi soir à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h, et également Radio Plus 104.3, qui nous rediffuse le mardi à midi, le mardi à 12h. En studio, aujourd'hui, nous sommes avec Jonathan à la technique. Bonsoir Jonathan.
Bonsoir.
Luc est également parmi nous.
Salut à toutes et à tous.
Et Aurélie.
Bonsoir.
Alors on va commencer par dérouler nos émissions habituelles. Peut-être en commençant par un petit peu de retour sur l'actualité. Et là on avait envie de vous parler d'une loi qui est en discussion actuellement à au niveau gouvernemental, au niveau de l'Assemblée, la loi anti-casseurs. Donc Micro-Rebelle va s'efforcer de vous proposer très prochainement un reportage sur cette loi anti-casseurs. On est en contact actuellement avec des associations de défense des droits de l'homme et avec des juristes et des avocats. Et donc très prochainement, on aura l'occasion d'y revenir. On voulait juste aujourd'hui signaler un petit peu la teneur de cette loi anti-casseurs hein, qui concerne quand même beaucoup de nos auditrices et nos auditeurs, notamment parmi les personnes mobilisées dans les mouvements sociaux actuellement. Alors l'article le plus emblématique de cette loi anti-casseurs, il autorise les préfets à interdire de manifestations qui bon leur semble, pourvu qu'ils puissent l'accuser de menacer l'ordre public. Donc il suffit d'être accusé de menacer l'ordre public pour être interdit de manifester. Donc cette interdiction, elle était déjà prévue par les lois sur l'état d'urgence de 2015, mais jusque-là, elle devait être motivée par un juge. Aujourd'hui, avec la loi anti-casseurs, la simple décision du préfet suffira. Par ailleurs, tout individu accusé d'avoir commis des violences lors de manifestations précédentes, même s'il n'a pas été condamné par la justice, pourra ainsi se voir interdire de manifester, et ce, sur tout le territoire national. La nouvelle loi permet aussi à la police de fouiller les bagages et les voitures sur les lieux d'une manifestation ou à ses abords immédiats. Enfin, les milliers de personnes qui cherchent à se protéger, notamment les yeux et le visage, des gaz lacrymogènes et des projectiles de la police, seront désormais menacées de 15 000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement pour avoir dissimulé leur visage, et elles pourront être jugées en comparution immédiate si elles refusent de se disperser sur l'ordre de la police. Voilà, on y reviendra, mais d'ores et déjà, ce qu'on avait envie de préciser aujourd'hui, c'est que cette loi anti-casseurs, en fait, c'est une loi anti-casseurs. Manifestantes et anti-manifestants. Une deuxième info cette semaine, c'est le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Donc ce que nous dit ce rapport, c'est que 12 millions de personnes sont touchées par la crise du logement. Et notamment entre 2001 et 2017, hein, donc 12 millions de personnes, ça n'est quand même pas rien au niveau national. Entre 2001 et 2017, le nombre de jugements qui a ordonné des expulsions a augmenté de 50%. Autrement dit, expulsion qui dépassent les 120 000 par an et qui conduisent à plus de 15 000 interventions de la police, pour mettre dehors des locataires qui ne se résignent pas à partir d'eux-mêmes. Voilà un peu la réalité du logement en France, et notamment du logement social. Autre actualité, c'est pas très loin de chez nous, sur le site de Lovinplanque, hein, la société Amazon, l'entreprise Amazon dans le Nord, et également sur le site de Montélimar dans la Drôme, il y a plusieurs salariés qui ont été licenciés pour faute grave. Il leur est reproché d'avoir soutenu le mouvement des Gilets jaunes. Alors justement, on a eu l'occasion cette semaine, hein, lors de la manifestation à Lille le 5 février, on a eu l'occasion d'interviewer un délégué syndical CGT de Amazon Lovinplanque qui évoque ses employés menacés de licenciement pour faute grave. Donc n'hésitez pas à venir sur notre site, hein, microrebelle.fr, pour écouter ce reportage et ce témoignage du syndicaliste CGT de Amazon Lovinplanque. Et donc on vous rappelle, hein, comparativement à ces menaces sur les salariés, le fait que Jeff Bezos, hein, le PDG de Amazon, c'est l'homme le plus riche du monde, il gagne plus de... Sa fortune est estimée, pardon, à plus de 110 milliards de dollars. Dans l'actualité, il y a également le grand débat, donc ça on aura l'occasion d'y revenir, hein, à l'occasion de notre revue de presse. Et puis également une toute dernière actualité, ce sont les expulsions en cours de migrants, notamment de migrants soudanais, dans la ville de Liévin. Donc il y a actuellement ce type de menace sur ces migrantes et ces migrants. Les associations de solidarité et de défense des migrants s'efforcent de résister. Notamment, ils ont écrit une lettre au préfet en demandant de ne pas accorder le soutien de la police, enfin, la mise à disposition de la police pour ces expulsions, notamment en arguant du fait que les lettres d'expulsion, donc c'est un petit peu un critère juridique, mais enfin je pense que les associations essayent de trouver des biais pour justement empêcher ces expulsions. Donc notamment en arguant du fait que les lettres d'expulsion ne prévoient pas, n'indiquent pas que le fait qu'on est encore en trêve hivernale n'a pas été spécifié dans la lettre d'expulsion. Voilà, et bien on va tout de suite passer comme chaque semaine à notre agenda. Et bien puisque c'est Jonathan qui est à la technique, c'est Luc qui s'y colle.
Alors on commence avec le samedi 9 février, Kanaki, un bilan et perspective après le référendum d'autodétermination. Une rencontre proposée par l'atelier d'histoire critique et survie Nord, avec Ivanik Waikata, porte-parole du mouvement des jeunes Kanaks en France, et Marie Bazin, coprésidente de l'association Survie. Un peu plus de 3 mois après le référendum sur l'autodétermination qui a vu le score des indépendantistes dépasser ce que prédisaient les sondages, quelle perspective s'ouvre aux partisans de l'indépendance et de l'autodétermination du peuple Kanak ? Ivanik Waikata présentera les premières conclusions élaborées par son mouvement et parlera également de la situation particulière des jeunes Kanaks installés en métropole ainsi que de leur rapport à la lutte pour l'indépendance. Marie Bazin viendra dresser quelques parallèles avec ce qu'ont vécu les pays africains dans les années 60 au moment des indépendances afin de souligner que la Nouvelle-Calédonie conserve toutes les caractéristiques d'une colonie. Ça se passe à la médiathèque du Vieux-Lille, à l'adresse 2527 place Louise de Bétigny, donc c'est le samedi 9 février, à partir de 15h et l'entrée est libre. Mercredi 13 février 2019, évidemment, l'UNESCO célébrera la 8e édition de la Journée mondiale de la radio. Cette journée marque l'occasion pour le monde entier de célébrer la radio et son impact sur nos vies. La radio nous informe, nous transforme et nous unit. Elle rassemble les communautés de tous horizons pour promouvoir un dialogue constructif en faveur du développement. Plus précisément, la radio est le moyen idéal pour appeler à apaiser et contrer la violence et les conflits, en particulier dans des régions isolées, potentiellement plus exposées à de telles réalités. Sur cette base, la Journée mondiale de la radio sera célébrée sous le thème « Dialogue, tolérance et paix ». En offrant une plateforme de dialogue et de débat démocratique sur des questions brûlantes telles que l'émigration ou la violence à l'encontre des femmes. Alors, dans l'esprit de célébrer la journée mondiale de la radio, un événement ouvert au public aura lieu au siège de l'UNESCO le mercredi 13 février, donc de 11h à 16h. Deux stations de radio diffuseront en direct, dont Radio UNESCO, une station de radio temporaire dédiée à la journée mondiale de la radio. Pour plus d'infos, tapez sur votre moteur de recherche UNESCO Journée Mondiale Radio, tout simplement. Enfin, un dernier rendez-vous, jeudi 14 février, une réunion publique compteur communicant aura lieu à l'initiative du collectif ACAD. ACAD, c'est Anti-Compteur Communicant Artois Douaisis. C'est à 18h30 à la salle des fêtes d'Angres. Voilà, ce sera l'occasion d'avoir quelques informations sur les compteurs Linky, Gaspard, également les compteurs à eau, et pour savoir aussi comment vous pouvez vous opposer à la pose de ces compteurs. C'est tout pour l'agenda de la semaine, c'est les vacances, pour les vacances scolaires pour les deux semaines qui arrivent, donc effectivement il n'y a pas grand chose.
Mais nous à Micro Rebelle, on n'est pas en vacances et on va continuer ce Micro Rebelle Hebdo par notre revue de presse hebdomadaire. Alors on s'est partagé le travail, hein. Moi je vais vous évoquer quelques coupures de journaux locaux, notamment La Voix du Nord, L'Avenir de l'Artois et Liberté Hebdo, et Aurélie, elle, s'est intéressée à la presse nationale. Alors je vais commencer par ouvrir L'Avenir de l'Artois avec un article intitulé « Un collectif climat qui veut peser sur les élus ». Donc cet article fait référence à la constitution sur le bassin minier, hein, Lens-Liévin et Nain-Carvin, d'un collectif climat. Vous savez qu'il y a de très nombreux collectifs qui se sont montés en France et dans la région, hein, notamment sur Lille et sur Arras, hein, pour situer les villes les plus immédiates du bassin minier. Eh bien, dans le bassin minier, c'est maintenant une chose faite. Ce collectif se constitue avec différentes activités. Hein. On aura l'occasion notamment de reparler de la grande marche régionale pour le climat le 27 avril. Alors je vous lis quelques extraits de L'Avenir de l'Artois. « Ils sont d'horizons divers, mais ils ont choisi de se réunir pour faire bouger les choses, car tous partagent le sentiment de l'urgence climatique. Premier objectif, convaincre la cale. Ensemble pour le climat Hauts-de-France, avec la mention Lens-Liévin. C'est sous ce nom que le collectif pour l'environnement qui vient de naître, après une première manifestation devant les locaux de la cale à Lens, samedi 26 janvier, va tenter d'interpeller les élus de la communauté d'agglomération, notamment un des participants, souligne, je cite L'Avenir de l'Artois, « Lens est la 7e ville la plus polluée de France, et pourtant rien n'est mis en place. » L'Avenir de l'Artois rappelle également quelques données concernant l'urgence climatique. Un rapport très alarmant du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, une pétition aux 2 millions de signatures baptisée « L'affaire du siècle », des marches partout en Europe et en France. À l'échelon local, la crise environnementale vient de trouver son collectif pour structurer le mouvement de contestation. Ce premier groupement pour le climat est né fin janvier à Lens. Dans Liberté Hebdo maintenant, hein, on a régulièrement l'habitude d'en parler dans Micro Rebelle Hebdo. Une brève concernant les transports gratuits et notamment la situation à Lille. Je vous lis cette brève. Transport public gratuit, un signe fort à Lille. Nous allons vers les transports publics gratuits parce que la transition écologique est une obligation. Par ces quelques mots lâchés sur l'antenne de France Bleu Nord le 25 janvier, Martine Aubry, maire PS de Lille, fait la démonstration qu'en politique, rien n'est figé dans le temps. Le journal précise, l'exemple de Dunkerque, plus grande communauté d'agglomération à avoir mis en place la gratuité l'an dernier, fait donc plus que des émules. Et donc, à Micro-Rebelle, nous continuons à nous interroger. Et le bassin minier, quand est-ce que cette question de la gratuité sera posée concernant le réseau Tadao ? Dans La Voix du Nord, un article qui fait référence à ce que Luc évoquait. Luc a présenté dans son agenda la réunion Linky à Angres la semaine prochaine. La Voix du Nord relate un petit peu la situation à Loison sous Lens, avec notamment le fait que les élus ont reçu une réponse d'Enedis au sujet de Linky. Je vous lis cet entrefilé de La Voix du Nord. Aux dernières nouvelles, le déploiement des nouveaux compteurs électriques Linky était prévu en septembre 2020 à Loison-sous-Lens. Enedis, le gestionnaire du réseau, ne semble pas du tout enclin à reculer. En avril 2018, le fameux compteur intelligent, Linky, s'était déjà invité à la table des débats du conseil municipal. Il en a de nouveau été question lors de la première séance de 2019. Les élus ont pris connaissance de la réponse d'Enedis, gestionnaire du réseau électrique en charge du déploiement des nouveaux compteurs. Alors je vous lis un petit peu la réponse d'Enedis telle que l'évoque La Voix du Nord. Vous allez voir que c'est assez stupéfiant la façon dont Enedis considère sa place et considère les usagers de l'électricité. Je vous lis cette réponse d'Enedis. Enedis possède un droit irrévocable d'accès aux compteurs pour réaliser sa mission de service public. Les compteurs seront donc bien remplacés, quelle que soit la volonté de l'habitant. Voilà, et La Voix du Nord conclut, ceux qui ne veulent pas se résigner n'ont plus qu'à se rapprocher des compteurs anti-Linky du secteur. C'est effectivement une très bonne façon de conclure. Seule la lutte et la mobilisation collective serviront à faire fléchir Enedis. Alors dans La Voix du Nord, toujours, un article concernant le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, ou plutôt des Hauts-de-France maintenant, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, à propos du bilan social de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Je vous cite. « Les syndicats du Conseil régional étrillent le bilan social de Xavier Bertrand. Suppression de postes, précarisation, perte de pouvoir d'achat et conditions de travail dégradées, six syndicats du Conseil régional sortent l'artillerie lourde contre Xavier Bertrand, qu'ils accusent de ne pas mener la politique sociale qu'ils demandent à Emmanuel Macron de mettre en œuvre dans le pays. » Et le journal poursuit. « Pour la première fois qu'ils tirent la sonnette d'alarme, mais cette fois ils le font de manière groupée et solennelle. Six syndicats du Conseil régional, CGT, CFDT, FAFPT, UNSA, Sud, SNUTER, menace Xavier Bertrand de déserter dorénavant les instances de dialogue social. Le dialogue social ici, c'est cause toujours, explique Xavier Derocque de la CGT. Les instances sont devenues des chambres d'enregistrement, regrette Dominique Mouret de l'UNSA. Le conseil régional a perdu ou précarisé 800 emplois en 3 ans. C'est l'équivalent de 3 Ascoval. Ascoval, c'est cette société qui a été menacée de fermeture, avance Benoît Guité de la CFDT. De la même manière, autre citation évoquée par La Voix du Nord, « Dans les lycées, les suppressions de postes et d'emplois aidés ont alourdi la charge des agents dont la moyenne d'âge est de 55 ans. Ces conditions de travail dégradées entraînent une montée de l'absentéisme. » Voilà la situation au Conseil régional Hauts-de-France. Plusieurs articles maintenant dans La Voix du Nord et dans L'Avenir de l'Artois concernant les fermetures de classes annoncées pour la rentrée prochaine dans le bassin minier. Notamment, L'Avenir de l'Artois propose une carte avec l'ensemble des fermetures. Il y a aussi les ouvertures de classes dans le bassin minier. Alors, sur l'ensemble du Pas-de-Calais, sont annoncées 153 ouvertures de classes et 209 fermetures de classes. Donc, on voit que le solde est largement négatif. L'exemple qui est le plus mis en avant dans les journaux, c'est l'exemple de Noyelles-sous-Lens. Et notamment, je vous invite une fois de plus à retrouver notre reportage sur la manifestation du 5 février à Lille, à l'occasion de laquelle nous avons pu interviewer un enseignant des écoles de Noyelles-sous-Lens, notamment de l'école qui est menacée de fermeture. Alors je vous lis la présentation de la situation à l'école Jean Moulin de Noyelles-sous-Lens par L'Avenir de l'Artois. À l'école Jean Moulin de Noyelles-sous-Lens, les parents d'élèves comptent bien se faire entendre. Et pour ça, ils ont tout prévu. Fanny, maman de 2 enfants scolarisés en cours préparatoire ainsi qu'en cours élémentaire à Jean Moulin, explique le déroulement prévu pour la journée de jeudi 7 février. « Nous avons prévu des tonnelles pour être à l'abri et nous allons mener des actions dès 8h20 jusqu'à la fin de journée. Les enseignants étaient en grève, déjà, mardi 5 février, et ils le seront pour nous soutenir jeudi 7 février. Nous allumerons aussi un feu de camp. Ce n'est pas normal. » À Jean Moulin, il prévoit une fermeture de classe en maternelle ainsi qu'en primaire. Cela veut dire que nos enfants seront plus de 30 par classe. C'est inadmissible. En plus de ça, il y a 13 enfants inscrits en tant que MDPH, Maison départementale pour le handicap, alors que le personnel ne peut assurer le suivi que de 7 d'entre eux. Sans oublier que l'école compte aussi une cinquantaine d'enfants en difficulté scolaire. Ces enfants ont plus besoin d'attention et ces fermetures ne vont pas permettre de les suivre correctement, explique la maman. Des parents d'élèves qui comptent bien se faire entendre pour le bien de nos enfants, mais aussi pour ceux des autres. Donc ça, c'était la présentation de la journée d'action du 7 février par l'Avenir de l'Artois. Et dans la Voix du Nord, on a le résultat de cette journée du 7 février. C'est une opération école morte très suivie, titre la Voix du Nord. Des chants, des farandoles d'enfants et de la musique à gogo sur le parking en face de l'école Jean Moulin hier matin. La mobilisation des parents d'élèves contre la suppression annoncée d'une classe est festive. Une quinzaine, appuyée logistiquement par la municipalité, était parée pour passer sa journée dehors. On a laissé entrer 9 élèves de maternelle et une vingtaine en primaire, expliquent les mamans. Sur 350 élèves dans l'école, c'est très peu. Et ceux que l'on a laissé entrer, on les a fait entrer sans cartable. C'est la plupart du temps parce que les parents travaillent et n'ont pas de solution de garde. Alors justement, puisqu'on évoque la mobilisation du 5 février, plusieurs journaux y reviennent. Cette journée, elle a réellement permis un rapprochement. C'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup intéressé à Micro-Rebelles. Un rapprochement entre les Gilets jaunes et les travailleurs et travailleuses, notamment syndiqués. Donc on peut toujours se reporter à notre reportage sur Micro-Rebelles. On peut dire qu'il y avait vraiment, lors de la manifestation à Lille en particulier, un beau mélange de gilets jaunes et de syndicats. Alors je vais vous évoquer deux coupures de journaux. Tout d'abord pour Liberté Hebdo. Le titre du journal, Gilets jaunes et syndicats, convergence en construction. La peur de la récupération est le meilleur outil de division, explicite le journal. D'un côté, en bataille depuis le 17 novembre, contre l'augmentation des taxes sur le carburant et l'amélioration du pouvoir d'achat, les Gilets jaunes refusaient partis et syndicats, ancrés dans une défiance souvent plus liée à de mauvaises influences médiatiques qu'à une véritable expérience. De l'autre, les centrales syndicales, peu habituées à intégrer des mouvements de rue, refusant bannières et drapeaux, mais ancrées dans la lutte et la capacité à organiser et à mobiliser pour les revendications. La CGT a finalement proposé la date du 5 février pour un rassemblement unitaire et interprofessionnel à vocation reconductible. La CFDT a décliné la proposition, mais Sud, FO, FSU, le SNES et bon nombre d'organisations ont répondu présent. Le journal cite notamment les manifestations dans la région de Beauvais à Valenciennes ou Béthune. Plus de 150 manifestations et rassemblements étaient prévus. À Lille, plus de 4000 personnes ont battu le pavé coude à coude. Ça, c'était pour Liberté Hebdo. Et dans le même ordre d'idées, La Voix du Nord évoque « Ce n'était pas un raz-de-marée, mais un premier rapprochement entre Gilets jaunes et syndicats. Jusqu'alors, les uns et les autres, poursuit le journal, avaient gardé leur distance. Mais hier, les Gilets jaunes ont répondu plutôt favorablement à l'appel de la CGT, de Solidaires et d'Organisation de la Jeunesse au premier mardi de l'urgence sociale. Le rapprochement a bien eu lieu, physiquement et dans les slogans, même si la mobilisation fut modeste. 500 à 600 manifestants ont défilé à Calais, Dunkerque et Valenciennes, comme partout pour plus de justice sociale et de pouvoir d'achat. Ils étaient entre 300 et 400 dans les rues de Douai. À Béthune, ils sont quelque 400 à s'être rassemblés devant l'hôpital pour dire non au projet de suppression de 81 postes. La défense du service public fut un des thèmes du défilé blanc médical, rouge syndical et jaune des gilets, qui s'est ensuite improvisé. On a dénombré 300 personnes manifestant à Boulogne, 150 à Aumont, 100 à Cambrai. On a suivi un cortège de VTC mécontents dans la métropole. Et à Lille, pour la manifestation régionale, ils étaient quelque 2500. Donc 2500, c'est le chiffre avancé par la Voix du Nord, alors que Liberté Hebdo avance plutôt 4000 manifestants. Du rouge, du violet, du bleu, du jaune, un peu de lacrymogène et 4 interpellés. La CGT veut réitérer chaque semaine ce mardi de l'urgence sociale. Alors le grand débat, évidemment, il fait l'objet de plusieurs articles dans les journaux locaux. La tonalité d'ensemble dans La Voix du Nord cette semaine, c'est le nombre de débats augmente. La Voix du Nord parle notamment de montée en puissance, mais c'est le scepticisme qui domine. Notamment, tout d'abord, Les jeunes sont les grands absents du grand débat. Quelques extraits issus de La Voix du Nord. Les deux Léa, donc deux jeunes filles, pensaient que c'était un truc pour les vieux. Mandy n'avait pas compris qu'elle pouvait participer. Julie et Gatien, quant à eux, ne sont pas inspirés par les thèmes du grand débat. Pas au courant ou pas bien informés. Voilà comment la grande majorité des jeunes rencontrés entre Lille, Bailleul et Dunkerque expliquent leur absence des réunions publiques organisées dans le cadre du grand débat national. Pourtant, le concept séduit la plupart d'entre eux, même s'ils émettent de nombreuses réserves. Bailleulois de 18 et 21 ans, Julie et Gatien adhèrent désormais au principe, mais ne participeront quand même pas. Les thèmes ne nous parlent pas. Léo, lui, estime « Le gouvernement n'a pas à décider de quand les Français, de quand et de quoi les Français doivent parler. » Pour tous, les thèmes abordés sont insuffisants. « Les lycéens ne sont pas assez préparés à l'entrée en fac », explique Gatien. « C'est de ça dont j'aimerais parler. » Avec fermeté, Mandy explique « Ils vont supprimer une classe dans l'école de mon fils. C'est ça qui me préoccupe. » Or, les thèmes parlent d'organisation des services publics, pas de moyens. Même remarque chez Enzo, mon petit frère de 8 ans n'a déjà pas les mêmes chances d'ascension qu'un enfant qui va dans une très bonne école à Paris. Ce n'est pas normal. Or, l'injustice sociale n'apparaît pas dans ces thèmes. Flavien, lui, évoque ses parents qui bossent comme des fous pour pas grand-chose. Et remarque, au final, tout ça va servir à quoi? Est-ce que les revendications vont être vraiment écoutées? Voilà, donc c'était sur les jeunes en tant que grands absents du grand débat. Ensuite, au-delà des jeunes, ce sont les gilets jaunes qui sont absents. Donc toujours dans La Voix du Nord, en titre, peu de gilets jaunes, des participants peu nombreux, mais de tous horizons. S'ils sont nombreux, les débats ne font pas toujours salle comble, évoque La Voix du Nord. On a vu des maires, comme celui de Bailleul, prévoir 180 chaises pour la rencontre organisée au hameau de la crèche, qui ne compte guère plus d'habitants. Au final, une vingtaine était venue. Mais ce n'est rien à côté de la folie des grandeurs d'Arras, où le dispositif, qui avait prévu d'accueillir jusqu'à 2000 participants, n'en a finalement eu qu'un peu plus de 300, mais pendant 7 heures. Le journal poursuit. Les gilets jaunes sont plutôt assez absents des débats. Une soixantaine à Meuvres jeudi, quelques-uns à Arras hier soir, une dizaine à Bertie mardi, mais un seul ou aucun dans nombre de rencontres. C'est sans doute un souci qui interroge sur la crédibilité de ce grand débat qui est largement perçu par les gilets jaunes comme une grande diversion. Alors concernant le scepticisme, justement, un entrefilé dans La Voix du Nord, scepticisme sur l'après-débat. Des gilets jaunes ont allumé un contre-feu en lançant leur propre site de consultation pour recueillir les propositions de tous les citoyens. La question cruciale de la restitution des débats alimente également la méfiance. Qui analysera la masse de données récoltées et qui en fera la synthèse? Leur traitement informatique suscite un énorme scepticisme, relève le politologue Pascal Perrineau, l'un des 5 garants du grand débat. Il souligne « défiance démocratique, littéralement gigantesque dans le pays ». Une toute dernière info pour clôturer cette revue de presse locale, une info relevée dans La Voix du Nord. C'est une grève à Auchan samedi matin pour soutenir 6 employés à mise à pied. Alors, Micro Rebelle a déjà reçu en studio des travailleurs et travailleuses syndiqués de la CGT à Auchan-Noyelles-Godault. Et cette fois-ci, La Voix du Nord évoque, je cite, « Avant Noël, des jouets avaient été mis de côté par 3 salariés, ce qui est interdit et leur a valu une mise à pied. Les syndicats, trouvant la procédure abusive, un mouvement de grève est prévu samedi matin sur le parking de la grande surface. Le 22 décembre, 3 employés d'Auchan-Noyelles-Godault finissent leur journée. Une fois leur poste quitté, elles auraient demandé à 2 collègues de leur apporter quelques jouets mis de côté en réserve. Pour cette opération, un 6e salarié est requis, auquel il leur aurait été demandé de descendre une palette. Selon une source syndicale, la pratique est commune, presque quotidienne, et ne concernerait pas seulement l'employé de base. Elle est toutefois proscrite et dans les faits sanctionnable. Ainsi, mi-janvier, le sextueur est cueilli et mis à pied. Dans un bureau séparément, ils sont interrogés pendant de longues minutes, questionnés sur les faits. Ils ressortent, avec chacun et chacune, une mise à pied à titre conservatoire et renvoyés chez eux. Voilà donc cette information sur une grève à Noyelles-Godault Auchan pour défendre ses salariés mis à pied. On ne peut que vous inviter, à Micro-Rebelles, à réfléchir avant d'aller faire vos courses samedi matin, ne serait-ce que pour soutenir ces salariés qui ont besoin du soutien face à leur direction. Voilà, cette revue de presse locale est terminée. Elle était assez riche en événements. Aurélie, elle, s'est intéressée à la presse nationale.
Un article paru dans Politis cette semaine parle du questionnaire en ligne, mis en place par le gouvernement afin de comprendre au mieux, dit-on, les préoccupations des Français. Préoccupations qui, en réalité, sont triées directement sur le volet puisque les sujets fâcheux sont à éviter. Ainsi, de nombreux sujets comme le rétablissement de l'ISF ou encore la hausse du pouvoir d'achat, deux des revendications majeures des Gilets jaunes, ne seront pas abordés dans le cadre de ce débat. Ils ne seront même, à mon sens, jamais discutés. L'article dénonce la structure du questionnaire en ligne comme une véritable manipulation. Et en effet, on peut discuter de l'idée même de ce questionnaire en ligne qui en soi protège le président et son gouvernement, puisque les thèmes qui vont être abordés sont ceux-là même ont choisi. Et on peut, je pense, deviner qu'ils ont choisi ce qui les arrangeait le plus. Pour les Français, le grand débat national bafoue leur liberté d'expression. Tous n'ont pas les mêmes revendications, et alors que certains se contentent des catégories imposées par le gouvernement pour ce grand débat, d'autres se sentent exclus. C'est le cas par exemple de Bilal. Je cite « Quand je dois aller travailler aux aurores pour gagner 1000 euros alors qu'Emmanuel Macron mange du caviar du matin au soir, ça me donne pas envie de me lever. » En effet, la jeunesse et les banlieues sont les deux angles morts du grand débat, dit Hassan Ben M. Barek, militant associatif et sympathisant de la droite. Il est regrettable que ces questions ne soient pas abordées alors qu'une grande partie de la population française est touchée, notamment chez les jeunes. De plus, l'accès à ce questionnaire s'avère être plutôt complexe. Alexandre Lamio explique « Nous avions prévu d'envoyer un compte-rendu sur le site granddebat.fr, mais après avoir chargé le document en PDF sur le site, j'ai vu qu'il avait disparu et aucun des autres comptes-rendus n'était accessible. Bug regrettable ou manipulation visant à diminuer le nombre de revendications reçues. » Dans beaucoup de mairies, le compte-rendu pour le grand débat s'avère assez fastidieux. En effet, entre les comptes rendus ne respectant pas les règles du grand débat quant aux thématiques, et les comptes rendus qui incorporent tout de même en bonus des revendications dites hors sujet, au final, sur 500 000 contributions annoncées, 200 000 sortent des clous. Rétablissement de l'ISF, accent mis sur l'accès à l'emploi, dette, investissement massif dans l'écologie, bien des sujets intéressants qui sont pourtant ignorés par le gouvernement actuel. Dans un système démocratique comme le nôtre, le gouvernement ne devrait-il pas écouter davantage ses citoyens? Ceux qui, au final, quand même détiennent le pouvoir de les nommer, de les destituer de leurs fonctions. Si le président doit faire le tour des villes de France pour essayer de convaincre les Français, c'est qu'il y a là un réel problème. Les cotes du président et du Premier ministre sont peut-être en hausse, 35% et 32% respectivement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont résolu tous les problèmes, ils en sont encore loin.
Un peu de musique libre. Pardon, alors on va faire une spéciale aujourd'hui parce que j'ai découvert un artiste que j'ai vraiment beaucoup aimé, il s'appelle Dexter Story, c'est un arrangeur, multi-instrumentiste, musicien, compositeur américain, il est californien je crois, il produit une musique qui a un métissage de jazz, de soul, de musique du monde, très inspiré de musique est-africaine, par exemple d'Ethio Jazz. Zik Libre en Bib, le site sur lequel je l'ai découvert et dont on parle souvent à Micro-Rebelle, parle de son opus Wandem comme d'un remède anti-morosité, donc en ces temps de grisaille ça peut être utile. Le premier titre qu'on écoute c'est Wegene Aola et c'est avec un saxophoniste américain assez renommé qui est Kamasi Washington.
web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Voilà, micro-rebelle, web radio solidaire quoi. Micro-rebelle hebdo, c'est diffusé tous les vendredis soirs à 18h en direct sur notre site internet microrebelle.fr et rediffusé par Radio PFM 99.9 à Arras et Radio Plus à Douvrin sur le 104.3. Lucien, je te laisse introduire le reportage qui arrive.
Oui, alors un reportage qui a été effectué dans le cadre des débats Pensés Ensemble de CLIS 21. Vous savez que la coopérative CLIS 21 organise régulièrement des débats Pensés Ensemble, hein, ouverts à tous, librement. L'occasion de réfléchir à des thématiques très diverses. Hein. On en a déjà beaucoup relaté à Micro Rebelle. Hein. Typiquement, le dernier en date, c'est l'interview qu'on a faite de Benoît Boritz, hein, autour de la question de la propriété privée, de la propriété collective et des communs. Eh bien, le dernier débat organisé par CLIS 21 prenait tout son sens dans le cadre des mouvements sociaux actuels. Et ce débat s'intitulait « On arrête tout, qu'est-ce qu'on redémarre ?» Donc il y avait ce débat. Micro Rebelle y était, il y avait une petite cinquantaine de personnes hein, qui ont débattu toute une soirée sur cette thématique. On arrête tout, qu'est-ce qu'on démarre ? Alors je vous lis la présentation de ce débat Pensez Ensemble. L'actualité de ces dernières semaines a fortement remis sur le devant de la scène la question du pouvoir d'achat. Mais pour acheter quoi ? Et donc pour produire quoi ? Que faut-il produire pour satisfaire nos besoins ? Quels besoins voulons-nous satisfaire ? Alors ce qu'on vous propose dans ce petit reportage, c'est d'écouter quelques participantes et participants qui ont été interviewés après ces échanges Penser Ensemble.
J'ai beaucoup aimé pouvoir discuter en petit groupe, de vraiment que j'ai ressenti que j'ai de repenser un peu nos modes de vie, nos modes de... Comment on se positionne dans la vie d'aujourd'hui ?
Alors, il y a eu effectivement beaucoup d'idées, de propositions qui sont ressorties. Toi, à titre personnel, si tu devais retenir une ou deux idées ou propositions ou suggestions, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ?
J'aime beaucoup les contradictions, en fait, dans le sens où ça nous permet d'enrichir le débat. J'aime bien que quand on dit quelque chose, on la contredise tout de suite en se disant « oui, mais, d'accord, mais... » Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On dit on arrête quelque chose, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc il y avait d'un côté, ça surgit tout de suite la question du besoin. On a besoin de se nourrir, on a besoin. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec la culture de la nourriture, la culture de la cuisine qui existe, qu'on ramène depuis l'histoire ? Et donc voilà, c'est un peu cette contradiction qui m'a beaucoup intéressée.
Donc ce soir, pour le débat, ce que moi j'aurais retenu, c'est surtout des alternatives pour que les gens apprennent à cultiver eux-mêmes et qu'on puisse être un peu autosuffisants dans nos manières de cultiver, qu'on ne dépende plus en fait des grosses industries agroalimentaires.
Est-ce que selon toi, avec ce que tu as pu ressentir ce soir, est-ce qu'on est prêt justement à ça ? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour y arriver ?
Il faudrait qu'on s'organise par petits groupes, par petits quartiers, pour qu'on apprenne à travailler justement en plus en commun. C'est des choses qu'on a perdues et qu'il faudrait qu'on inculque à nouveau dès le plus jeune âge, qu'on prenne l'importance de travailler en commun. Que c'est pas de travailler de manière individuelle qui importe, mais vraiment de fonctionner en groupe. C'est ça, oui, que j'ai retenu et qui est important, qui est primordial pour avancer vers des économies, une alternative à l'économie qui nous entoure.
Je dirais que c'est surtout une grande frustration, parce que j'ai l'impression d'entendre des choses que j'ai déjà entendues partout et qui restent très théoriques. Où les gens ne sont que dans le général, où les gens n'ont pas beaucoup lu, donc ne comprennent pas bien les tenants, les aboutissants de ce qui se passe. Et pour moi, ça ne débouche sur rien. Voilà. Par exemple, quand je parle des compteurs communicants qui concernent tout le monde, qui sont l'avènement du monde numérique, contre lequel on lutte en fait sans le savoir, l'industrie dont on a parlé aujourd'hui, bah, les gens ça ne les intéresse pas. Et ils se laissent faire. Et les gens qui sont dans cette salle, dans leur immense majorité, sinon tous, auront un compteur vert fluo et un compteur orange, c'est sûr. Voilà ce que je retiens de ce débat. À chaque fois que je vais à un débat public, c'est ce que je constate. On a des gens qui ont un malaise et ils veulent le partager ensemble, ils veulent exprimer des interrogations, mais ils n'ont rien lu, ils ne lisent rien, ils subissent la propagande des grands médias qui disent tous la même chose, et ils sont prisonniers de ce truc. Et quand on propose de lire, c'est-à-dire de simplement déjà donner aux gens, voilà la liste de mes livres, lisez juste la quatrième de couverture, il n'y a plus personne. Et c'est ce qu'on a constaté là ce soir. On a après parlé de prêter des bouquins, bon, c'est encore plus irréaliste, ça ne se produira pas.
Tu évoques les limites d'une discussion collective comme celle-là.
Ouais.
Tu proposes peut-être de lire davantage. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une dimension que tu occultes? C'est la dimension de la lutte qu'il faudrait mener.
Dans la lutte quotidienne et je cherche à la partager, elle est là. La lutte quotidienne. Descendre de chez soi, aller parler aux poseurs dans la rue, c'est pas de la lutte ça? C'est de la lutte ça? Mettre une affichette sur sa porte, c'est pas de la lutte? Et montrer qu'on le fait et demander aux gens de le faire, c'est de la lutte? Les gens ne le font pas, ils ont peur. On est dans un système totalitaire, les gens ont peur, restent terrés chez eux. Ils viennent simplement se réunir de temps en temps parce que ce malaise, ils le ressentent bien. Ils voudraient faire quelque chose pour en sortir. Mais dès l'instant où on se rend compte que pour faire quelque chose, il faut se lever et dire non, par exemple comme les quelques gilets jaunes qui ont bougé, 200 000 c'est rien, ou 300 000 c'est rien du tout sur un pays, mais il n'y a plus personne. Tout à l'heure j'avais envie de dire, on parlait du CNR, qui est-ce qui a fait que le nazisme est mort? Essentiellement la résistance française. Ils étaient combien? 2% de la population. Donc rien n'a changé. Les gens avaient certainement un malaise, mais la peur, même la lâcheté, est toujours là. Et de ce point de vue-là, l'humanité n'a pas changé. Donc je viens parce que je suis comme les autres. Je dis, je ne peux pas rester là à rien faire, je ne veux pas rester les bras croisés. Mais à chaque débat, j'ai la même frustration. On reste à la surface des choses et on part tout de suite dans des idées creuses. Moi, j'ai entendu quasiment que ça.
Si tu permets, je vais essayer de te titiller là-dessus. Tu parles des compteurs communicants.
Oui.
Il y a une levée en masse en France contre les compteurs communicants. Enedis recule sur ces questions.
4 heures de travail par jour sur la question depuis 2 ans. Donc je suis au courant, j'ai fait 11 conférences, je peux t'en apprendre. C'est moi qui donne là, c'est moi qui sais. Donc oui, tout à fait, une levée en masse, certainement une levée en masse. Aujourd'hui, 861 communes sur 36 000 et essentiellement que des petites communes. J'appelle pas ça une levée en masse. 861 communes petites contre 36 000 communes à peu près en tout. Aucune grande commune sauf Villeneuve-d'Ascq, 62 000 habitants, Gérard Caudron. Et encore, Gérard Caudron, vice-président de l'AMEL, ne se lève pas. Il a dit à ses administrés, oh, si vous voulez ne pas avoir de compteur, je vous soutiendrai. Point barre.
Au-delà du nombre de communes, hein, entre 800 et 900, il y a tous ces collectifs qui se sont créés. Donc,
avec lesquels je suis en contact tous les jours. Ces collectifs, c'est quoi? Le collectif A4 du bassin minier, ils sont 10. Et ils se démènent d'une manière extraordinairement énergétique et efficace, comme je le fais, comme d'autres gens le font. Mais on est dans une société de résignation. Les gilets jaunes l'ont bien montré. Les gens veulent rouler. Et si ce n'est pas pour aller bosser, c'est pour aller en vacances, c'est pour aller faire leurs courses. On ne remet jamais le système en cause.
Mais les gilets jaunes ont aussi montré que l'action collective pouvait mobiliser les gens.
Ils ont montré ce besoin qu'on a rencontré ici ce soir. Ce besoin de se retrouver ensemble, d'essayer de se poser, de se rencontrer à nouveau et de faire des choses ensemble. Bien sûr, mais ils sont tous, y compris moi-même, prisonniers d'une force supérieure qui s'appelle la propagande. On l'a dit publicité tout à l'heure. Il faut savoir que la publicité aujourd'hui, elle est relayée par la relation client. La publicité est en train de mourir. Et la relation client, c'est quoi? C'est l'individualisation des gens face à la consommation. Faudrait poser la question aux gens. Qui est-ce qui, dans cette salle, a déjà acheté des objets connectés? Eh bien, on serait surpris de voir qu'il y en a. Et on est déjà dans ce... Même parmi les gens qui veulent se libérer, y compris moi-même, on a déjà du mal à faire ce pas de côté dont quelqu'un a parlé. Quand on parle de l'industrie sans se rendre compte que l'industrie fournit les armes pour soigner ses tares, on tourne en rond.
Alors Gérard, si tu permets,
oui.
Je te propose d'arrêter sur ce débat. Non, mais je voudrais revenir sur le débat.
Ouais.
Alors tu es intervenu durant le débat,
ouais.
En pointant du doigt une cause essentielle, la société industrielle. Est-ce que tu peux revenir là-dessus?
Oui, tout à fait. Depuis la moitié du 19e siècle, C'est l'Angleterre qui a démarré d'ailleurs l'affaire. L'industrie a pris de l'importance et a changé radicalement la vie des gens. En commençant à vider les campagnes, en faisant que les ouvriers étaient parqués par leurs patrons paternalistes, par exemple. Et ça a commencé à créer cette société où les gens sont devenus de plus en plus dépendants à des machines, ce dont ce soir on s'est plaint, on s'est dit on voudrait bien recultiver notre jardin, etc. Et cette dépendance aux machines est devenue aujourd'hui telle qu'on électrifie tout. Et que maintenant, la plupart des gens, moi j'en ai pas, ont un GPS dans leur voiture. Si tu veux acheter une voiture sans GPS, je crois que ça devient impossible. Et les gens en redemandent, donc les objets connectés se vendent. Hein. On est parti dans les assistants vocaux maintenant. Et donc le big data, c'est-à-dire la méga donnée, elle vend en poupe. Et les gens en veulent. Ils en veulent non pas parce qu'ils en ont besoin, c'est pas dans nos besoins, mais c'est dans ces fameux besoins créés que l'industrie, depuis qu'elle existe, a généré. Pour quoi faire ? Ben, pour vendre, puisque l'industrie fabrique, il faut vendre. Et pour vendre, il faut avoir des clients. Alors, on ne peut pas vendre que du pain, du lait, de la viande, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent s'enrichir qu'il faut inventer des trucs. Les start-up. Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un qui a fait une start-up française. Donc ceux qui iront au nouveau siècle écouter un concert, ils auront leur téléphone portable allumé, ils auront l'obligation de l'allumer pour utiliser l'appli et pour pouvoir faire des choses en interaction avec les musiciens. Donc d'habitude, toi, quand tu vas au concert, tu regardes les musiciens, t'écoutes et tu regardes. Non, ils vont regarder leur putain d'écran. Et ça marche, ils vont tous dedans. Tu vois ce que je veux, je dis tous, quasiment tous. D'où la frustration, quand j'entends autour de ces tables, ici, les gens, je me dis, ah, j'ai l'impression qu'on n'en est pas assez loin dans la réflexion pour faire ce pas de côté, tout en restant prisonnier de ce monde. Je veux dire, j'y suis. J'ai aussi un téléphone portable. Mais il y a un moment où il y a des choses où on pourrait dire non. Par exemple, mettre une affichette sur sa porte pour dire non à l'industrie qui veut entrer chez toi de force pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Même Hitler ne l'avait pas fait. Il l'avait fait avec l'étoile jaune des Juifs, tu vois, pour donner un rapport de parallèle. Donc voilà. Donc frustration, mais bon, je vais quand même revenir aux autres débats. Parce que je ne suis pas un ermite et je suis avec mes frères humains et chacun a fait comme il peut pour essayer de trouver au moins un moyen d'être lucide et libre. Ça, on peut le faire.
Au niveau de ce que j'ai retenu, c'est que les gens ont envie de changer, enfin de changer le système, de changer les modes d'action, d'agir. Mais que bah, on est beaucoup, si on se dit on veut agir, mais on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas comment peser sur le pouvoir. Je pense que c'est en construction et on est peut-être aussi motivé par l'alerte climatique, sociale, et aussi avec les gilets jaunes qui nous montrent aussi ben, que quand on se regroupe, on peut peser et faire bien chier le pouvoir, quoi, et leur dire que le peuple, ben, c'est pas juste des gens qui mettent des bulletins dans l'urne et qu'on peut aller aussi peser entre les élections. Et donc il y avait plein d'idées, plein de super trucs sur beaucoup de niveaux un peu abstraits. Le concret, bon, il n'y en a pas vraiment posé les bases du concret, mais ce n'était pas le but de l'exercice non plus. Donc peut-être à voir les prochaines réunions, si on parle plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire étape par étape, tout ça.
Toi, à titre personnel, est-ce qu'il y a une ou plusieurs idées forces ou mesures ou propositions que tu aurais envie de mettre en avant ?
J'aime bien l'idée de démarchandisation, parce que c'est moi qui l'ai dite. Non, mais je pense que la démarchandisation, c'est vraiment une bonne base pour partir sur une nouvelle société. Dans le sens où bah, c'est l'économie qui a foutu un peu le bordel dans les relations humaines. Et comme le disent beaucoup d'économistes, il faut remettre l'économie à sa place, c'est-à-dire au second plan. Et dès lors, je pense qu'il y aura, il y aura plus de choses, de bonnes choses à faire. Surtout, et qu'il faut que ça soit couplé avec une collectivisation des décisions. Quoi, qu'on décide mutuellement qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas pour nous. Plutôt que ça soit les mêmes toujours qui décident qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas pour nous, et qui finalement n'est jamais bon pour nous puisque c'est pas pour nous.
Voilà, c'était un recueil d'impressions plus ou moins enjouées, plus ou moins pessimistes, vous aurez pu le remarquer, recueil d'impressions. Voilà, à la sortie du débat On arrête tout, qu'est-ce qu'on redémarre, organisé par CLIS21 lors de leurs ateliers Penser ensemble, c'était à Mons vendredi dernier. Alors là, on n'a eu que des impressions. Lucien, toi, tu étais au débat, tu y as participé. Donc, est-ce que tu, avec les quelques minutes qui nous restent, est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse ? Et par exemple, au final, qu'est-ce qu'on redémarre ? Ouais. Qu'est-ce qu'on redémarre ? Est-ce que la question a été tranchée ?
Alors justement, il faut peut-être resituer un petit peu comment s'est déroulée la soirée. Hein. Donc c'était, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une petite cinquantaine de personnes, entre 45 et 50 personnes. Il y a eu le débat a duré entre 19h et 21h30. Hein. Alors, le débat, il a démarré en petit atelier, autrement dit 6 à 8 personnes autour d'une table qui discutaient ensemble. C'était vraiment tout à fait libre et spontané. Autrement dit, à partir de la thématique, on arrête tout qu'est-ce qu'on démarre. Les personnes s'exprimaient en groupe. Ensuite, il y a eu une restitution en plénier. Autrement dit, chaque groupe avait désigné une personne pour dire ce qui s'était passé au sein de son groupe. Donc ça, c'était une deuxième phase. Et la troisième phase, c'était un débat libre. Alors, bah, écoute, pour l'instant, je ne peux pas encore répondre à ta question. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on démarre. Pourquoi ? Parce que, déjà, sans doute que la question est difficile. Et ensuite, parce qu'il y a eu pas mal d'idées de données, pas mal d'idées d'évoquer. Autrement dit, il y a eu des certitudes sur ce qu'il fallait arrêter. C'est vrai qu'il y a eu des... Qu'est-ce qu'il faut arrêter ? Ben, des personnes ont dit très nettement, faut arrêter de fabriquer des armes, faut arrêter de fabriquer des sous-marins nucléaires, faut arrêter de fabriquer des avions bombardiers. Tous ces appareils qui font d'ailleurs la richesse de la France. Hein. Quand Jean-Yves Le Drian va en Égypte ou dans les Émirats Arabes Unis, c'est un petit peu ça. Il y a eu donc des choses qu'on arrête. Il y a des choses qu'on fait moins, on produit moins. Il faut moins produire de machines à laver, par exemple. Mais imaginez des machines à laver en bas des immeubles. On me dit des machines à laver collectives. Ça se fait déjà en Suède, hein, paraît-il, ce type d'expérience. Donc des choses qu'on produit moins. Il y a des choses qu'on produit d'une manière mesurée. Hein, donc c'est l'histoire de ces machines à laver. Alors et qu'est-ce qu'on redémarre ? Ben, les gens ont beaucoup parlé de... Les participantes et les participants ont beaucoup parlé de redémarrer ce qui permet à chacune et chacun d'entre nous dans un quartier, dans une entreprise, de rester autonome. Par exemple, les gens ont beaucoup évoqué la question de l'agriculture, de la permaculture, des jardins partagés, des... Voilà, donc ça c'est très, très raccourci la façon dont je l'expose. Pourquoi ? Parce que ce débat, il n'est pas terminé. Autrement dit, c'était vraiment un premier jet avec des gens très différents, on l'a entendu dans les différentes interventions, des gens extrêmement différents qui venaient là débattre pour la première fois et... qui se sont donné rendez-vous pour poursuivre justement ce type d'échange.
Alors est-ce qu'il nous reste un peu de temps ou est-ce qu'on passe à la musique de fin ? On en est où ?
Ben là il nous reste 3 minutes avant la fin.
3 minutes ? Parce que tout ça c'est... Bon effectivement il y a la question de la sobriété. Enfin, je repense aussi à ce que les gens ont dit, quoi. Il y a la question de la sobriété, il y a la question de la dépendance à la machine, il y a la question de la société industrielle, la question de la marchandisation. Alors effectivement, tout ça c'est très lié. Et puis, je ne sais pas comment les gens ont réagi au fait qu'au final, on en est nous arrivés à un stade de dépendance, quoi, parce que on est entouré de machines et de technologies. Au final, même quand on est un peu écolo, on aurait quand même du mal à s'en passer, quoi.
C'est certain. C'est certain que. C'est d'ailleurs extrêmement surprenant, je dirais, que ça arrive avec autant de force maintenant. Je dirais qu'il y a un an, enfin à titre personnel, je ne constatais pas ce type de prise de position. Là, aujourd'hui, je pense que le fait que la société va dans le mur, le fait qu'il y ait le mouvement des Gilets jaunes, le fait qu'il y ait des crises à répétition, le fait que aussi, j'imagine, ça n'a pas été dit comme ça, mais il y a de plus en plus de boulots de merde. Des gens qui travaillent comme des cons sur des boulots qui n'ont aucun sens. Je pense que tout ça, ça contribue au fait de se dire, bon, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Ça nous échappe. Notre vie nous échappe, ce qu'on consomme nous échappe. On produit des choses qui nous rendent prisonniers, qui nous emprisonnent un peu à un système. Et je crois qu'effectivement, ça... Ça vient avec relativement de puissance et il faut maintenant transformer un petit peu ces constats en volonté de changement et puis en action de changement, en propositions nouvelles. Et là, je pense qu'il faut vraiment que, à la fois ceux qui produisent et ceux qui utilisent les produits, autrement dit les consommateurs, si on peut se permettre ce terme, il faut vraiment que tous ces gens-là se rejoignent et imaginent le changement. Peut-être en arrêtant tout.
peut-être en arrêtant tout. Bon, c'est presque une transition, hein, parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Bah, nous, il faut qu'on arrête cette émission, parce que là, ça touche vraiment à sa fin, et on va dépasser l'horaire. Alors, on va se quitter en musique. On reste, je l'ai présenté tout à l'heure, sur Dexter Story, voilà, producteur américain. Le titre qui suit, c'est Sidet Eske Meshe, voilà, avec Yared Teshale au chant.